Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche tous les samedis de 8h à 10h sur les ondes de Cheese 94.3 avec Augustin Becci.
Bon, aujourd'hui 6 avril de l'an de grâce 2024, nous parlerons du climat et des changements climatiques. Mais avant toute chose, sacrifions au plaisant devoir d'urbanité des salutations. Bonjour Ahmed.
Bonjour cher Augustin, bonjour tout le monde.
Alors Ahmed nous est revenu avec l'éclipse aussi.
Oui, du 8 avril. Bah, j'espère que tout le monde aura l'occasion de vivre ce moment magique et magnifique.
C'est ça. L'éclipse solaire, qu'est-ce que c'est? Il paraît qu'il y aura une éclipse solaire le lundi 8 avril 2024, et que c'est une éclipse totale du soleil. La documentation nous dit que c'est la 15e éclipse totale du 21e siècle, mais le 18e passage de l'ombre de la Lune sur la Terre. Le 8 avril donc, 2024, une éclipse solaire totale se produira dans le ciel de certaines parties du Canada quand la Lune s'alignera parfaitement. Pour ceux qui voudront revoir une éclipse solaire, il faudra se rendre dans l'est du Canada le 29 mars 2025 afin d'assister à un phénomène qui sera cette fois partiel. Une autre éclipse similaire sera aussi visible le 12 août 2026 partout au Canada, hormis dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique. Accompagnons la nouvelle de l'éclipse avec une expression musicale, The Middle of the Road, qui commence à dater 1972, Soleil, Soleil.
Just a little bit lonely. Just a little bit sad. I was feeling so empty. Until you came back.
Bonjour à toutes et à tous, aux uns et aux autres fidèles auditrices et auditeurs de Chise 94.3 FM et de Son de Cloche, l'émission préférée de beaucoup, ici et à travers le monde, pour toutes ses formes d'expression, anodines, remarquables ou extraordinaires, locales ou globales, artistiques, scientifiques, sociales ou autres, des êtres, des choses, des événements. Nous suggérons de ne pas rester enfermés dans des concepts, des paradigmes ou des idées toutes faites, mais se sentir en tout temps solidaire de tout ce qui concerne notre monde ou nos semblables, ici ou ailleurs, et agir en conséquence sans être limité ou disqualifié pour quelque raison que ce soit. Notre émission donne l'occasion, à tous les points de vue, d'exprimer leur originalité dans le respect de toutes, tous, chacune et chacun. Dans cette célébration du vivre ensemble, nous œuvrons à la concrétisation heureuse du donner et du recevoir au fil des émissions. Je m'appelle Augustin Betchy et vous exprime toute la joie, l'enthousiasme et le plaisir incroyable et agréablement renouvelé de passer les deux heures qui vont suivre en votre estimable, enrichissante et stimulante compagnie. Comme annoncé, nous parlons aujourd'hui du climat, de l'environnement et du climat. Que les requins jouent un rôle dans la survie des humains. Que l'équivalent de plusieurs terrains de foot, de forêt, disparaissent chaque minute. Que l'eau que nous buvons provient peut-être d'un glacier. Qu'en rotant, les vaches produisent du gaz nocif, le méthane. Qu'il y a du plastique dans notre dentifrice, notre shampoing et même notre pull. C'est un peu pour nous rappeler ce qu'il faut savoir sur notre monde, sur l'environnement qui nous entoure et ce que nous devons faire pour qu'il reste habitable. Nous allons nous appuyer sur quelques bonnes feuilles de Mathilda Masters, qui a écrit 123 choses urgentes à connaître sur le climat. Le climat est en train de changer. Bien sûr, il en a toujours été ainsi, mais l'évolution que nous observons à l'heure actuelle est inédite. La température moyenne sur la planète augmente bien plus vite que jamais auparavant. Et la faute en revient aussi aux humains. Le réchauffement climatique a des conséquences majeures. La fonte des glaces s'accélère au niveau des pôles. Les tempêtes se multiplient et nous devons réfléchir à la question suivante. Comment allons-nous produire assez de nourriture pour tout le monde dans le futur? En outre, notre environnement est malade. Les forêts disparaissent, de même que de nombreuses espèces d'animaux. Pendant ce temps, l'humanité produit plus de déchets qu'elle ne peut en traiter. On retrouve du plastique jusque dans les profondeurs abyssales des océans. Heureusement que de plus en plus de personnes intelligentes cherchent des solutions. Hélas, certains continuent de prétendre que la situation n'est pas si grave. Mais qu'est-ce que c'est que le climat? Le climat est le temps qu'il fait en général à un endroit du globe. Pour le définir, les scientifiques calculent la moyenne des données météorologiques sur une période d'environ 30 ans. Il est influencé par un grand nombre d'éléments, tous liés entre eux, dont le soleil, qui joue un rôle majeur. Ce n'est pas un scoop, la Terre tourne autour du soleil. Les rayons de ce dernier frappent le milieu de notre planète, l'équateur, selon un angle plus proche de la perpendiculaire que des pôles. La concentration de rayons par unité de surface y est donc supérieure, ce qui se traduit par un climat chaud, tropical, autour de l'équateur et par un climat froid au niveau des pôles. Entre les deux, le climat est tempéré, en général. Il fait moins chaud qu'à l'équateur et plus froid qu'au pôle. Le soleil est aussi à l'origine du vent et des courants marins. En effet, la chaleur provoque le déplacement des masses d'air et d'eau. L'air chaud monte. Sa rencontre avec l'air froid crée le vent. Dans les océans, des courants sont aussi générés par des différences de température. On les appelle les courants de convection. Le vent et les courants marins fonctionnent un peu comme un gigantesque tapis roulant. Ils déplacent en quelque sorte la chaleur d'une région à l'autre du globe. Nous ne pouvons pas changer de climat à notre guise, et tant mieux. Sinon, nous commanderions peut-être tous les jours du beau temps pour pouvoir jouer dehors en oubliant de demander de la pluie. Au bout d'un moment, notre planète se transformerait en désert. Nous ne pouvons pas choisir le temps qu'il fait, mais cela ne signifie pas que nous n'avons aucune influence sur le climat. Plus d'informations. Pendant cette émission, nous ferons de notre mieux pour en parler. Pour y arriver, commençons avec Jacques Brel avant d'avoir les commentaires de notre consultant maison, Jacques Brel au printemps.
Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Printemps, au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, toutes les filles vous donneront leurs baisers, puis tous leurs espoirs. Vois tous ces cœurs comme des artichauts qui s'effeuillent en battant pour s'offrir au badaud. Vois tous ces cœurs comme de gentils mégots qui s'enflamment en riant pour les filles du métro. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, tout Paris se changera en baiser, parfois même en grand soir. Vois tout Paris se change en pâturage pour troupeaux d'amoureux, aux bergères peu sages. Vois tout Paris joue la fête au village pour bénir au soleil ces nouveaux mariages. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, pour une fleur, un sourire, un serment, pour l'ombre d'un regard en riant, toute la terre se changera en baisers qui parleront d'espoir. Vois ce miracle, car c'est bien le dernier qui s'offre encore à nous sans avoir à l'appeler. Vois ce miracle qui devait arriver, c'est la première chance, la seule de l'année. Au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints au vin blanc. Au printemps, les amants vont prier Notre-Dame du bon temps. Au printemps, au printemps, au printemps.
Alors, nous revenons à notre consultant maison. Qui va nous donner ses impressions sur, d'abord, le printemps. Est-ce que c'est un vrai printemps que nous avons?
Je dirais un printemps, ce qu'on a là tout de suite.
Oui.
On a un printemps hivernal, avec la chute des températures. Mais non, on a eu un hiver très doux, le printemps a commencé tôt. En tout cas, je suis habitué, moi, à un printemps plein de couleurs, plein de joie.
C'est ça.
Plein de fêtes. La vie commence avec le printemps, en fait. On entend, on écoute le matin les oiseaux chantant, on voit les feuilles vertes sur les arbres. Et on voit tout le monde souriant. Et on a moins de vêtements au-dessus de nous aussi.
C'est quoi la différence entre un printemps tunisien et un printemps québécois?
Ouais, une grande différence. On n'a pas de neige déjà, il n'y a que le nord-ouest en Tunisie où il y a les montagnes qui ont un petit peu de neige l'hiver. Mmh. Mais le printemps tunisien, c'est vraiment, vraiment de la couleur, des sons, des odeurs. Parce que on a le romarin, tout ce qui est plantes qui ont de l'odeur dans l'air. On marche et on sent plusieurs odeurs différentes. J'habite sur la côte, c'est un cap, c'est une ville qui s'appelle Monastir. Et on a la mer. La mer change en printemps. Elle est plus accueillante. Tout le monde sort. On a tous les produits frais, en fait. On a des marchés de poissons frais, de légumes, fruits frais. On a les légumes de saison qui sont cueillis le matin même. Le poisson qui sont pêchés la soirée même ou le petit matin même. Les gens sortent leur vélo. Il y a les terrasses de café. Tout le monde s'en prenne de la vitamine D. Tout le monde essaie de se bronzer un petit peu, même qu'on est déjà bronzé. C'est ça. En fait, tout le monde fait sa fête. On ramasse tous les vêtements d'hiver, on les lave, on les met au placard et on commence petit à petit à vraiment sentir la chaleur d'été qui s'en vient.
Ça signifie donc que le printemps, les humains fêtent le printemps.
Oui, dans toutes les civilisations, les humains fêtent le printemps. Parce que, par exemple, en Égypte, avec les Coptes, il y en a ce qu'on appelle Cham el Nessim. C'est une fête de printemps.
Ok.
Ils essayent de sortir, de danser, de faire des soirées. Parce qu'en hiver, on ne peut pas faire les soirées. Les soirées comme chez nous, en Méditerranée, je veux dire. Mmh. Parce que les soirées là-bas, ce n'est pas 4 ou 5 personnes. Non. Le minimum, ça sera une centaine. C'est le minimum requis, le béaba, là.
Oui.
Beaucoup, on mange beaucoup, on boit beaucoup, on fête beaucoup. Et on danse beaucoup aussi. Mm-hmm. Et il nous faut des soirées bien douces, pas très froides. Hein. Bien douces, bien. Il y a de la chaleur humaine et de la chaleur au-dessus de 20 degrés, si je dirais.
Bon, alors, compte tenu de tout ça, est-ce que ça justifie une certaine éco-anxiété qu'il y a des gens qui se disent nous risquons de perdre toutes ces bonnes choses sur la Terre avec les changements climatiques.
Oui, malheureusement, ce qui arrive là, le constat, moi j'étais témoin quand j'étais petit, vraiment au printemps. Là, il fait de plus en plus, il est serré dans le temps. Auparavant, il y avait 3 mois de printemps.
Okay.
Là, même pas un mois, parfois, on passe directement de l'hiver rude à l'été rude.
Okay.
À l'été chaud. Malheureusement, cette décennie a été la décennie des records en température. Depuis la révolution industrielle, le rythme de réchauffement climatique était accéléré. Je comprends que c'est le cycle de la Terre. Il y a des périodes froides, il y a des périodes chaudes, mais l'être humain, après la révolution climatique, a accéléré, a speedé, comme on dit, a multiplié par 3 ou 4 la vitesse de réchauffement climatique. Après, on a vu, par exemple en Méditerranée, moi j'ai étudié le climat méditerranéen, c'est un climat doux. Il n'y a pas de tempête.
C'est ça.
Là, il y a des tempêtes méditerranéennes. Il y a des tornades en pleine Méditerranée. C'était inconcevable auparavant. Le réchauffement climatique, et là, le problème, il a réchauffé les mers et les océans. Mmh. Alors, tout l'écosystème marin va changer. Et il est en train de changer, déjà. Et c'est un point non réversible. Par exemple, on a eu un hiver ici à Québec, doux. Mais il n'y a presque rien. 15 ou 20 bordées de neige vraiment importantes, mais absolument rien. Et on a vu une fente des neiges rapide. C'était pas concevable auparavant. Moi, je dis tout le temps, pourquoi on pénalise toute l'humanité alors que les pollueurs, grands pollueurs, on les connaît? Pourquoi continuons à abattre les forêts alors c'est le premier poumon de la planète? Et on connaît, on va où? On va au gouffre, au point de non-retour par rapport à la civilisation. Mais qu'est-ce que les générations qui vont venir, qu'est-ce qu'ils vont hériter? Pas rien.
Les remarques que tu fais sont très importantes parce que nous avons pu constater avec la Covid dernièrement que quand les activités humaines se sont arrêtées,
oui,
la nature a repris ses droits.
Bah oui, elle reprend. Oui.
On a pu voir, même dans les villes, les animaux recommencer à occuper le territoire. On a pu voir les plantes pousser. On a pu constater qu'il y avait moins de pollution sonore. Selon toi, qu'est-ce que nous pouvons faire pour retrouver cet état-là? Est-ce qu'on est vraiment obligé de continuer avec la dynamique économique que nous avons, que le monde a actuellement?
On essaie d'avoir le juste milieu. Je comprends très bien, bah, après, vous aurez des gens qui disent « Oh, on ne va pas arrêter l'économie comme à la Covid, il y a eu l'inflation, il y a eu le chômage. » Bah, d'accord, je comprends. On est dans tout ce qui est globalisation. On ne peut pas arrêter ça. On ne peut pas arrêter d'importer, par exemple, de la Chine. C'est l'industrie chinoise la plus forte, la plus grande actuellement. On ne peut pas arrêter l'industrie américaine, occidentale. D'accord, je comprends. Mais essayons de vivre, et comprendre surtout, pas que vivre, les besoins de la nature.
Quelque part, il y a une formule que je cite maladroitement. C'est se préoccuper soit des fins de mois, soit de la fin du monde.
Oui, mais les fins de mois, pas des individus, mais des États.
Des États et des individus, parce que, parce que les gilets jaunes, par exemple en France, ont souvent eu des revendications normales. Les syndicats, je parle à un syndicaliste, ont souvent eu des revendications normales, légitimes et même logiques.
Oui.
Sauf que, comment concilier les deux aspects? Pendant la Covid, les États du monde ont réussi à concilier ces aspects-là.
Ils étaient obligés.
Mais est-ce qu'on ne peut pas continuer? Parce que nous sommes quelque part obligés, compte tenu du danger qui nous guette.
Malheureusement, non. Malheureusement, pour vrai, non. Par exemple, je prends l'exemple de l'Europe, là, ce qui se passe maintenant. Avec la guerre d'Ukraine, avec l'arrêt de l'approvisionnement du gaz russe, ben, les États européens reprennent l'énergie fossile, reprennent les centrales avec l'énergie fossile. Et ça, c'est une des grandes régressions envers de la nature. Ils n'ont pas d'autre choix. L'homme, l'être humain, tout ce qui est pays développé est habitué au luxe. Luxe, je veux pas dire luxe bling bling, de l'or, du diamant, tout ça, du platine. Non, le luxe, le confort de vie. Dans d'autres parts du monde, on peut vivre avec le béaba. Mais dans tout ce qui est monde développé, impossible. La civilisation est passée à un autre niveau de confort qu'on peut pas on peut pas retourner en arrière. Le monde essaye de comprendre ce que la nature veut, mais avec sa façon. Je te donne un exemple. La dernière COP, elle était où? Elle était au golf, pays de golf. On était
à
Dubaï.
À Dubaï.
Ok. Dubaï, c'est une des villes qui est la plus consommatrice d'énergie fossile au monde. Dubaï, l'une des villes les plus luxueuses au monde, qui a le ratio de voitures la plus consommatrice au monde de gaz, parce que c'est des V2020 trucs chevaux sur leur capot. Il n'y a pas de logique. on veut faire, on veut protéger la nature, on veut protéger la, on veut sauver la race humaine, et on fait ça dans la ville qui pollue le plus. On est dans des hôtels qui consomment énormément de l'énergie, parce qu'il faut, il faut chaud, il fait chaud, et nous, on veut être dans le confort, on utilise les airs, ce qu'on appelle la climatisation. Et pour faire plaisir aux ministres et chefs d'État et tout ça, qu'est-ce qu'on prend ? Ben, des voitures de luxe. Quand on laisse tourner le moteur pendant des heures, parce que ce responsable, quand il sort de sa conférence, doit avoir son char bien climatisé. Voilà. Il n'y a pas de sens pour vrai. Pour vrai, il n'y a pas de sens. Tout ce qui est... tout le monde, je crois, qui est intéressé à ce sujet, connaît qui sont les pays les plus pollueurs au monde. On doit commencer avec ça. C'est ces deux pôles diminuent 1% de leurs émissions de gaz à effet de serre, on va être sauvé.
Ce sera déjà significatif.
Ouais. Okay. Mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit les pays qui sont sous-développés, qui n'ont même pas d'industrie polluante. Par rapport aux autres, bien sûr, je dis, ils ont toujours une énergie polluante.
C'est à eux qu'on demande des sacrifices.
Tout à fait.
Prenons une escale musicale. Nous vous revenons tout juste après.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Sinatra, Veranda, Glasper, Davis, Matheny, Mays, Knopfler, Steffi Schock, Herbie Hancock, Slack Key, Sirtaki, Charles Hives, Sudden Archives, Jerry Allen, Grant Eugène, Cloney Ellington, Wagner, tous ces artistes et styles et plus encore. Monsieur Papal pour la cassette, un mardi sur deux, 22h à 23h sur Chiz 94.3 FM.
Les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Le climat a souvent changé en 4,6 milliards d'années. Notre planète est âgée de 4,6 milliards d'années, rien que ça. Elle est donc beaucoup plus vieille que l'humanité, qui est apparue il y a environ 300 000 ans. Depuis la formation de la Terre, le climat a souvent changé. Durant certaines périodes, elle était recouverte en quasi-totalité d'une couche de neige et de glace. Voilà quelques 700 millions d'années, elle ressemblait à une gigantesque boule de neige flottant dans l'espace. La température moyenne était de moins 45 degrés Celsius, un froid de loup. Autant dire que les conditions n'étaient pas vraiment propices à la vie. À d'autres époques, le climat était beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui. Il est arrivé qu'il n'y ait pas de glace au pôle. Des palmiers poussaient même au pôle Nord. Il y a 2,7 millions d'années, les périodes glaciaires ou glaciations ont commencé à alterner avec les périodes interglaciaires. Il s'écoule chaque fois environ 100 000 ans entre les deux phases. La dernière glaciation s'est achevée il y a, voilà, 12 000 ans, cédant la place à une nouvelle période interglaciaire, l'Holocène. Cette période géologique est toujours en cours. La plupart des changements climatiques sont tout à fait naturels. Il y a 55 millions d'années, on pouvait bronzer au pôle. Voilà 55 millions d'années, la température moyenne sur la Terre avoisinait les 25 degrés Celsius. Même au cœur de l'hiver, elle ne passait pas au-dessous de zéro dans les pôles. On aurait pu y bronzer sous les palmiers, ou y croiser des sortes d'ancêtres de l'hippopotame et du crocodile. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi il faisait si chaud. En l'espace de 20 000 ans, une période très courte dans l'histoire de la planète, la température a augmenté d'environ 5 degrés Celsius. Peut-être est-ce dû aux nombreux volcans qui entraient en éruption un peu partout, à moins qu'un événement ne se soit produit dans les fonds océaniques entraînant ce réchauffement général. Le plancher océanique était alors couvert de débris de plantes et d'animaux en décomposition. Le froid y étant glacial, ses résidus étaient gelés. Cependant, pour diverses raisons, le globe s'est réchauffé un peu, de même que le fond de l'océan. En se décomposant, ces restes de plantes et d'animaux ont alors libéré du gaz, le méthane. Celui-ci est remonté sous forme de grosses bulles qui ont éclaté à la surface. Il s'est retrouvé dans l'atmosphère. Avec le dioxyde de carbone, il a provoqué un effet de serre, ce qui a abouti à un réchauffement du climat. Celui-ci est resté chaud pendant 20 millions d'années. Puis, il y a 35 millions d'années, l'Amérique du Sud et l'Australie se sont détachés du pôle Sud et se sont mis à dériver. L'eau a commencé à circuler autour du pôle. Comme elle était plutôt fraîche, elle a rapidement refroidi la zone. Ainsi s'est formée une robuste calotte glaciaire qui est toujours là aujourd'hui. Le reste de l'océan s'est aussi refroidi. Quelques vigoureuses périodes glaciaires se sont succédées. Fini les séances de bronzage au pôle Nord. Alors, nous avons convoqué ces bonnes feuilles de Madame Mathilda Masters un peu pour faire suite aux commentaires de notre consultant maison, qui lui aussi plaidait pour que les pays pollueurs fassent un effort. Bon, mais est-ce que, avec ce que je viens de lire, on peut dire que l'effort des pays pollueurs n'est pas forcément significatif? Parce qu'il y a des gens qui disent que de toute façon, la Terre s'équilibre, enfin, équilibre son écosystème par elle-même.
Oui, mais si elle trouve un écosystème déjà, pour l'équilibrer. Si les mers se réchauffent, un petit exemple. Je peux citer la mer Rouge et la Méditerranée, d'accord ? Le problème de la Méditerranée, c'est qu'elle est en train de chauffer. Parce qu'à la base, la mer Méditerranée était plus froide que la mer Rouge.
D'accord. Ok.
Ça, on parle depuis l'Holocène. L'Holocène, c'est entre 10 000 ans et jusqu'à maintenant, la période transitoire. Mm-hmm. C'est une période de climat stable. Mais là, tant que la mer change de... Elle va être plus chaude, mm-hmm. les espèces de la mer chaude, qui sont des poissons spécifiques à cette mer rouge, mm-hmm. entrent en mer méditerranée à travers... les cargos, les bateaux cargos, ou à travers le canal de Suez, et changent l'écosystème marin de la Méditerranée. Ce qui nous donne le système marin atlantique qui va changer aussi. Parce que le contact Méditerranée-Atlantique, ça se fait à travers le détroit de Gibraltar. Ce qui nous donne, par conséquence, tous les océans et toutes les mers vont être, leur écosystème va changer. D'accord. Monsieur, madame, tout le monde dit, eh oui, et alors, on va avoir d'autres poissons qu'on va manger peut-être. Mais non. Si les écosystèmes de partout changent, c'est que l'horloge, c'est comme notre horloge biologique comme être humain. C'est il y a une horloge pour la Terre. Si elle est déréglée, tout va être déréglé. Les pays qui avaient un climat stable vont avoir un climat rude, et les pays qui ont eu un climat rude vont avoir un climat plus rude, avec plus de tempêtes et plus de catastrophes naturelles. Ce qu'on a vu depuis une vingtaine d'années jusqu'à maintenant. D'accord. Et là, on dit, oui, mais les grands pollueurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer. C'est comme un char. Si on accélère, on accélère, on accélère, on accélère, bah, on va droit dans le mur.
Dans le mur.
Bah, si on lève un petit peu notre pied, on va dans le mur de toutes les façons, d'accord. Mais ça sera plus lent. On vivra plus lent. Le vide de la Terre, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des périodes glaciales, il y a des périodes de transition comme le Holocène maintenant. Mais on devra allonger cette période-là. Pourquoi l'accélérer? C'est ça. Pourquoi essayer d'aller vite à l'extension de l'être humain? Pourquoi on essaie de faire ça? Il n'y a pas de sens. On est bien, on peut rester, on peut diminuer un petit peu la pollution, essayer de sauvegarder tout ce qui est animal, essayer de diminuer surtout l'énergie fossile et tout ce qui est plastique et polluant et gaz à effet de serre. Et petit à petit, la planète va s'équilibrer à l'aide des êtres humains. C'est nous, à la base, qui avons déréglé tout ça, mon cher.
Écoutons Michael Jackson, Earth Song.
Thank you. look what we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure?
On ne peut pas nier que les humains ne se préoccupent pas de leur environnement. Suivant les bonnes feuilles aussi de notre amie Mathilda Masters, un changement climatique a contribué à l'émergence du langage. De moins 5 1,3 à moins 2,6 millions d'années, s'étend l'époque du Pliocène. Il fait alors en moyenne 3 degrés Celsius de plus qu'aujourd'hui. Par conséquent, le niveau de la mer est plus élevé. En outre, ce climat chaud rend le continent africain très sec. La vie est dure pour les premiers hominidés qui y vivent, car ils éprouvent toujours plus de difficultés à trouver de quoi se remplir l'estomac. Le gibier se fait rare et les plantes fournissent peu de fruits. Toutefois, la pénurie alimentaire est telle qu'il ne reste pas d'autre choix que de migrer. Cependant, elle n'a pas que des effets négatifs. Elle pousse les hominidés à mieux communiquer entre eux. Ils peuvent ainsi signaler à d'autres où il reste de la nourriture, ou encore décider ensemble de partir vers d'autres cieux plus cléments. Le réchauffement climatique a donc obligé les premiers hominidés à s'adapter à leur nouvel environnement, qui était beaucoup plus sec. Ces conditions difficiles les ont incités à mieux se parler. Le volume de leur cerveau a augmenté et ils sont devenus plus intelligents. La sécheresse les a aussi forcés à chasser davantage. En effet, la cueillette rapportait de moins en moins de nourriture. La viande était savoureuse, mais elle leur restait sur l'estomac. Les hominidés ont vite compris qu'un steak se digérait plus facilement si on le faisait cuire, d'abord au-dessus des flammes. Peu de temps après, ils ont appris comment allumer eux-mêmes un feu. La découverte du langage et du feu sont donc des conséquences indirectes d'un réchauffement du climat. Peut-on dire avec cette feuille de Madame Mathilda Masters, que le comportement des pays du Golfe que tu as pointé du doigt, on peut en tenir compte plus ou moins?
Oui, mais... Oui, mais non. Elle a pris l'exemple du passage de l'homme préhistorique, de la préhistoire à la proto-histoire, de l'homme nomade à l'homme
sédentaire,
à l'homme qui vivait de la cueillette et la chasse, à l'homme qui vraiment découvert le feu, découvert comment transformer les matériaux premiers à travers le feu vers autre chose, l'homme qui a passé du silex, les armes et le couteau faites du silex, aux armes et faites avec du transformation du fer à travers le feu, manger du cru vers tout ce qui est cuit,
oui.
Et découvrir ce qui est l'écriture avec l'écriture cunéiforme, les dessins rupestres qui sont dans les grottes. Tout ce qui est écriture qu'on a vue, moyen de communication qu'on a vu, et l'émergence des langues. Ok, d'accord. Jusque-là, c'était correct. Pour moi, depuis la nuit des temps, jusqu'à la révolution industrielle, tout était correct. Tout passait normalement. C'était le cycle de la vie. La révolution industrielle, ça a changé le visage du monde. L'industrie s'en vient, les chars, tout ce qui est dans le confort de l'être humain, mais ça a accéléré le déclin aussi de l'être humain. On n'est pas arrivé à ce point-là, au point de déclin, mais on se rapproche rapidement.
Regarde, il y a une opinion qui pense comme toi que nous accélérons vers... ce qui n'est pas bon pour...
Vers le déclin, tout simplement. C'est comme ça. Il n'y a pas autre chose. On ne va pas vivre dans une chaleur de 80 degrés aussi. Hein.
Bon. Il y a d'autres qui pensent, par contre, que nous allons quand même nous adapter, parce que nous avons toujours trouvé le moyen de nous adapter.
Ben,
bon.
D'accord.
Okay. Entre les deux, son de cloche, lui, se pose la question... il faut donner raison à quel point de vue?
Écoute, commençons avec ces deux théories. Commençons avec l'homme qui va, le darwinisme, comme on dit.
Oui.
L'homme va s'adapter. Oui, d'accord. Mais pour que l'homme s'adapte, et ça nécessite des millions d'années, n'est-ce pas? Déjà. Voyons comment il s'est adapté auparavant. Est-ce qu'on va avoir une autre race de l'homo sapiens sapiens? Ça va changer, on va être l'homo sapiens sapiens sapiens? Quatre fois sapiens, on va changer vers quelle race humaine? Parce que si on évolue, ça ne sera pas la race humaine, ça ne sera pas les homo sapiens sapiens, n'est-ce pas?
Oui.
Bah forcément, c'est le déclin de l'homo sapiens sapiens alors. Bah tout, dans toutes les situations, les gens qui sont partisans de la première théorie, ils ont raison. De toutes les façons, comme je dis toujours, restons modérés et tenons le bâton du milieu. Il faut chercher pour vrai. Il faut que tous les humains, les 8 milliards qu'on a sur Terre, doivent comprendre. Si on pollue cette planète, si on abat les arbres, il n'y aura pas un futur prospère. C'est aussi simple que ça. La nature fait que les grandes forêts, comme l'Amazonie, c'est le plus grand poumon qu'il y a sur Terre. Bon, on le détruit d'une façon horrible. Chaque année, des millions d'hectares sont abattus d'arbres.
Mais parlons un peu de l'Amazonie. Comme on peut parler du bassin du Congo. Revenons à l'Amazonie. Les Brésiliens étaient heureux d'élire un président qui leur parlait de... d'exploiter l'Amazonie, parce que, utilisons les termes que ces personnes-là utilisent, et les Brésiliens lui ont donné raison, à un moment donné, avant de le débarquer,
voilà.
Peut-être pour d'autres raisons.
Oui, mais c'est comme pour toute personne qui habite à côté d'une forêt. Il essaie de prendre un petit peu de grignoter un petit peu de terrain par rapport à la forêt, pour faire de nouvelles bâtisses, de nouvelles industries, pour avoir des arbres, et tout ça. C'est dans la nature humaine. L'être humain, c'est le plus grand prédateur. C'est le sommet de la chaîne alimentaire. Et c'est le sommet de la chaîne de destruction aussi.
Je crois que tu connais ce conte-là de la grenouille. Et de son expérience avec l'eau bouillante. C'est-à-dire que si on prend, je vais résumer, on prend une grenouille et qu'on la met dans une eau bouillante, elle va tout de suite vouloir s'échapper. Par contre, si on prend la même grenouille, qu'on la met dans une eau à température supportable pour elle, et qu'on augmente la température petit à petit, elle va supporter la température jusqu'à ce qu'elle soit totalement cuite, la grenouille.
Tout à fait.
Bon, donc, ceux qui nous ont proposé ce conte-là pensent comme toi que on s'achemine lentement, peut-être sûrement, peut-être même de façon accélérée, vers ce qui n'est pas bon si nous ne faisons pas attention.
Oui. Oui, pour vrai.
Mais d'autres pensent que l'être humain peut devenir un mutant, capable de vivre dans des températures...
Écoute, c'est devenir un mutant, c'est plus un être humain. C'est ça que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. C'est plus la race homo sapiens sapiens.
Ok.
Bah, tu sais, genre, d'après Darwin, il y a plusieurs races. Les hominidés, les homo sapiens, puis ça a donné... l'homo sapiens sapiens. Mais est-ce que eux, déjà, sur le débat scientifique, sont des êtres humains? Non. Ils ne sont pas des êtres humains.
Ah.
La race humaine, c'est les homo sapiens sapiens. S'ils vont changer après, ça sera une autre race. Ça ne sera pas des êtres humains aussi. Qu'est-ce qu'on va garder? Est-ce qu'on va garder la même morphologie, la même cavité crânienne, oculaire? Qu'est-ce qu'on va garder, finalement? On aura plus de poils, moins de poils, parce qu'auparavant, on a vu plus de poils.
C'est ça, parce qu'il faisait plus froid.
Oui. Mais c'est ça. Mais on a moins de poils aussi ces derniers temps, c'est à cause d'autre chose, à cause de la pollution. C'est le manque de testostérone. Pour vrai, parce que tous les produits qu'on mange, c'est des produits chimiques. Est-ce que l'humanité... Un exemple. Est-ce que l'humanité connaissait c'est quoi les cancers? Et ça venait d'où?
Pas autant.
C'est à pas cause autant. De quoi? C'est à cause de la pollution, en premier lieu. C'est à cause de produits chimiques, en second lieu. Et qui a mis ça? C'est nous. Pas moi et toi, mais c'est la race humaine.
Nous sommes comptables tous ensemble. Ouais.
Les pesticides. Normalement, il y a un équilibre de l'écosystème végétal qui favorise la plantation de tomates, des fruits et légumes, mais en utilisant les pesticides chimiques qui changent notre ADN même. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? L'homme, avec un grand H, c'est-à-dire homme et femme, depuis la haute antiquité, la même proto-histoire, avait des critères bien spécifiques. Là, qu'est-ce qu'on voit? Tous les hormones dans tous les êtres humains ne comprennent plus rien. La femme n'est plus fertile comme auparavant. L'homme n'est plus fertile comme auparavant. C'est à cause de quoi? Si on trace chaque dérèglement dans l'être humain ou dans la nature, nous prendre tout le temps vers la pollution à grande échelle, je veux dire. Ça va nous prendre vers ça. Je crois qu'on est arrivé... je suis alarmiste peut-être, trop peut-être, oui, mais on devra ouvrir les yeux, pas que pour nous, on est vieux. Ouais. pour les générations à venir, parce que là, avec le réchauffement climatique, reprenons les sujets d'actualité qui sont à Québec,
exactement.
C'est pas que la migration des travailleurs, la migration économique, on a maintenant une nouvelle vague de migration, ce qu'on appelle la migration climatique.
Faisons une virgule musicale suivie d'une pause publicitaire.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Allô Patrick, comment ça va?
Ben ça va bien toi?
Ah, pas très bien. On dirait que j'ai pas quoi écouter comme musique.
Ah ouais, ben j'ai une solution pour toi. Écoute le monde d'Erika Sonneau, c'est vraiment bon. Il y a plein de musique qui va te remonter le moral.
Ah oui? Qu'est-ce que c'est?
Ben il y a plein de nouveautés de tous les styles musicaux, comme la musique anglophone, francophone, autochtone. Il y a même la musique punk et metal.
Ah ouais?
Et en plus, c'est vraiment cool. Il y a la musique New Country, rap, reggaeton, EDM Club, sans oublier les découvertes internationales, ainsi que la réaction forte de la semaine.
Ben là, les fans de musique, réveillez-vous! À quel endroit on peut retrouver ça?
Tous les dimanches, entre 19h à 20h30, à Chiz 94.3.
C'est un rendez-vous!
On Mukau Sit.
J'entends quelque chose.
C'est une nouvelle émission dédiée aux langues menacées ou en dormance et aux cultures autochtones en résurgence. Yari Huaronka. Saviez-vous que 6 à 7 000 langues sont actuellement menacées de tomber en dormance dans le monde? Koshimrud Egin. La revitalisation linguistique et culturelle par le dépaysement sonore, l'altérité auditive, des mots et des merveilles longtemps oubliés ou ignorés, c'est ce qui vous attend à Anmukeosit. Anmukeosit, tous les dimanches à midi sur Chiz 94.3.
Étudiants et étudiantes de deuxième et troisième cycle de l'Université Laval, voulez-vous vous impliquer à l'Allier? Sachez que c'est le moment opportun. Envoyez rapidement un message à l'adresse courriel suivante, communication avec S, à commercial, allier.ulaval.ca. Venez vite! L'Allier, votre allié pour toujours.
Ahmed, tu nous parlais tout à l'heure de l'immigration et de son... de son incidence sur par rapport au notre conversation sur les changements climatiques. Oui. Bon, je vais de nouveau te laisser la parole, mais après une petite feuille de Madame Mathilda Masters qui dit que un changement climatique a poussé les humains à s'éparpiller sur tous les continents. Donc ça va un peu dans le sens du discours que tu tenais tout à l'heure.
Oui.
À un moment donné, le réchauffement climatique a rendu l'Afrique tellement aride que toutes les forêts ont presque disparu. Il ne restait plus qu'une immense plaine herbeuse, parsemée ici et là de buissons et d'arbres. Dans l'herbe haute, nos ancêtres se sont mis à marcher debout afin de pouvoir surveiller les environs. Ils pouvaient ainsi repérer une proie bien juteuse ou un prédateur féroce dont il valait mieux se cacher. Il y a quelque 1,8 million d'années, le climat a commencé à se rafraîchir. Une période glaciaire a débuté. La surface des pôles s'est agrandie. Il ne pleuvait pas, mais il neigeait tout le temps. La neige est restée sur le sol et s'est tassée en une masse compacte. La glace continentale ainsi que la banquise ont gagné beaucoup de terrain. Le froid les a empêchés de fondre au printemps et en été. L'eau ne retournait donc plus aux océans, ce qui a provoqué une baisse du niveau de la mer. À l'époque, celui-ci se trouvait 120 mètres en dessous du niveau actuel. Des terres auparavant immergées se sont asséchées, offrant la possibilité aux premiers hominidés de partir à la découverte du monde. Au départ de l'Afrique, ils ont traversé les fonds océaniques à sec en direction d'autres régions du globe. Ce type de migration a souvent eu lieu pendant les phases plus chaudes. Grâce à ce changement climatique, les hominidés ont pu explorer le monde entier et s'installer partout. Mais les temps étaient durs. Nombreux sont ceux qui n'ont pas survécu aux périodes glaciaires. Nos lointains ancêtres n'ont réussi à s'en sortir que dans une partie de l'Afrique où il y avait encore de la nourriture. Seuls les hominidés intelligents et prévoyants ont survécu. Nous les avons baptisés Homo sapiens, l'homme sage. Ce sont nos aïeuls. Mmh. Alors, ça vient confirmer ce que tu disais tout à l'heure, que peut-être que l'humanité ne sera plus tout à fait la même.
Bah oui, oui. Elle explique tout, là. Parce que, avec les vagues de migration, parce que, bon, la migration, c'est un terme... après la révolution industrielle, c'est un terme nouveau. Mais auparavant, toutes les... ce qu'on appelle, pas les tribus, mais le groupe des personnes, le groupe de hominidés pouvaient passer avec leurs besoins. C'est des peuples nomades qui traversent du sud vers le nord. Et comme ça, on a la présence des premiers ossements qui sont en Éthiopie. Ça s'appelle Lucie, avec 13 petits ossements. Qui atteste de la présence des civilisations en Afrique. Les premières civilisations étaient là. Et à fur et à mesure, avec le réchauffement, ces gens-là, ou ces espèces-là, avant de passer à l'Homo sapiens sapiens, ont migré vers le nord, vers des climats plus doux, vers des forêts plus développées, où il y a plus de pâturage pour être des Homo sapiens sapiens sédentaires. Et là, on a ce qu'on appelle la civilisation capsienne, une des plus anciennes aussi au monde, qui est dans un bassin où il y a maintenant le phosphate. C'est-à-dire que, qu'est-ce que veut dire qu'il y a de la phosphate ? Qu'est-ce que veut dire que cet endroit-là était émergé par la mer ?
Ok.
Et après, ça arrête. Là, bon, on sait tout le monde, il y a une période glaciale, période chaude. Ces zones-là étaient émergées par la mer, et après, la mer a reculé de plusieurs centaines de kilomètres. D'où il y a l'homme homo sapiens sapiens, qu'on peut avoir l'attestation. Il dessinait dans les grottes, en fait. C'est pas qu'on a deviné qu'il y avait des gens là-bas, non. Ils dessinaient...
Ils ont laissé leurs traces.
Leurs traces. Mmh. C'est ça que, l'autre fois, on a parlé du parcours de la vie, on essayait de laisser notre trace aussi, on n'est pas éphémère. Ces gens-là ont laissé leurs traces dans les murs des grottes, attestant qu'ils étaient eux-mêmes, pas avec leur nom, mais la présence. Eux-mêmes étaient là. Ils dessinaient le passage de l'âge de fer, de l'âge du feu, l'âge du bronze. Ils dessinaient tout. C'est un moyen de communication pour dire on était là. on a appris à manipuler le feu. On a compris que il y a pas que la civilisation, bah, d'être nomade pour vivre. On a créé un noyau de village. Et comme ça, on est arrivé jusqu'à nous, comme être humain. On est sédentaire et qui est nomade est devenu minoritaire. Mais à la base, c'était les nomades qui sont majoritaires et les sédentaires étaient minoritaires. Petit à petit, ils ont créé leur ville, leur moyen de transport durable, sans émission de gaz. J'espère que maintenant, on va retrouver dans le futur ce mode de symbiose avec la nature, parce que là, le mode, par exemple, qu'on vit là, c'est de transport individuel, pas un transport en commun. Le transport individuel, c'est vrai, c'est un confort, mais on multiplie par 10 l'effet du gaz à effet de serre, c'est le CO2 qu'on dégage dans la nature. Un bus ou un train ou un métro peut contenir plus de gens qu'un millier de chars.
De toutes les façons, nous devrons gérer des changements qui s'en viennent.
Oui.
Bon, il n'y a pas longtemps, je cite ça de mémoire, là, je n'ai pas les faits précis, mais on parlait de certaines populations, je crois, dans l'extrême, à côté de l'Australie, là, qui allaient disparaître sous l'eau.
Oui, c'est les petites îles qui sont au Pacifique. Bah oui.
C'est ça. Oui. Alors, est-ce que ça nous amène à d'autres changements? C'est-à-dire que on considère qu'un État, c'est une population, un territoire et un gouvernement. Là, il va rester la population, le gouvernement, mais il n'y aura plus le territoire.
Ben, s'il n'y a plus de territoire, il n'y a plus de population. Si ces îles-là se sont englouties par la mer,
c'est ça.
Il n'y aura plus.
Ben, il n'y aura plus de pays.
Ben, c'est ça. C'est l'effet que la mer augmente chaque année,
c'est ça,
d'un centimètre. Ben, forcément, les petites îles qu'ils ont au niveau zéro,
oui,
là, il n'y a pas de ni colline, ni rien.
Exact.
Ben, forcément, ils seront engloutis. On se souvient toujours de paysages catastrophiques du tsunami.
Mm-hmm.
Ben, ça serait un petit peu ça, malheureusement. Tu sais, dans l'histoire, avec les volcans, on a vu des îles qui sont créées et des îles qui ont disparu. C'est le cycle normal. Mais malheureusement, avec la fonte des gros glaciers, la mer fait qu'augmenter de niveau. Et petit à petit, toutes les zones qui sont à niveau zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de collines, vont être, comme auparavant, englouties par la mer. C'est aussi simple que ça.
Écoutons Wyclef Jean et Mary J. Blige, 911.
Yo, what up, this Wyclef with Mary J. Girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks. I want you right now to turn the lights down low. Pull your girl up next to you. I want you to sing.
If Jeff comes for me tonight, girl, I want you to know that I love you. And no matter how tough I would have been, only to you I would reveal my tears. Tell the police I ain't home tonight. Messing around with you is gonna give me life. But when I look into your eyes, man, you're worth that sacrifice. Yeah, yeah. If this is the kind of love that my mom used to warn me about, man, I'm in trouble. I'm in real big trouble. If this is the kind of love that the old folks used to warn me about, man, I'm in trouble. I'm in real big trouble. I need y'all to do me a favor. Someone please call 911.
Pick up the phone, yo.
Tell them I just been shot down in the bullets in my heart, and it's piercing through my soul.
Les climato-sceptiques. Certains affirment que le réchauffement climatique est un mensonge ou que les humains n'en sont en rien responsables. Ils disent que la température sur Terre a toujours varié. On les appelle les climato-sceptiques ou climato-négationnistes. Ce sont souvent des personnes qui ne croient pas les humains capables d'influencer un phénomène aussi important que le climat. Cependant, nous savons aujourd'hui, avec certitude, que la température moyenne de la planète augmente. Tous les climatologues, ou presque plus de 97%, sont en outre sûrs et certains que les activités humaines en sont en majeure partie responsables. Les informations recueillies par tous ces scientifiques sont rassemblées par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC. Celui-ci réunit des spécialistes issus d'universités, de centres de recherche, d'organisations environnementales, d'entreprises et d'autres organismes. Le GIEC ne mène pas d'études lui-même, mais il évalue toutes les données qu'il reçoit et les analyse pour établir des rapports. Grâce à toutes ces recherches, nous savons à présent que la combustion de pétrole, de gaz naturel et de charbon depuis la révolution industrielle joue un rôle majeur dans le changement climatique. Les climatologues débattent encore de l'ampleur du réchauffement à venir, de son impact sur le niveau de la mer et de ses conséquences sur les humains. Certains scientifiques sont plutôt pessimistes, d'autres pensent que nous serons assez intelligents pour trouver des solutions. Quoi qu'il en soit, ce sera l'un des plus grands défis jamais affrontés par l'humanité.
Ben voilà. Ben voilà.
C'est ça. Ils viennent appuyer un peu, pas un peu, la position que tu défends depuis le début. Mm-hmm. Mais moi, je me fais l'avocat du diable. L'être humain a tendance à s'adapter.
Oui.
Alors, suivons une autre bonne feuille de notre amie Mathilda. Un changement climatique est à l'origine de la découverte de l'agriculture. Mmh. Les longues périodes glaciaires ont toujours menacé la survie des humains. La dernière en date débute il y a environ 117 000 ans et se termine voilà 12 000 ans. La Terre met un certain temps à se réchauffer. Mais il y a 11 000 ans, la vie devient plus douce. On appelle cette période l'Holocène. Les températures augmentent, une végétation luxuriante commence à pousser, ce qui est fort pratique pour les chasseurs-cueilleurs. Il leur suffit en quelque sorte de se baisser ou de tendre la main pour trouver de quoi manger. Les proies aussi sont plus nombreuses. Avec de la nourriture en abondance, nos ancêtres peuvent songer à faire plus d'enfants. La population humaine se développe rapidement. Les gens se rassemblent en groupes de plus en plus larges et fondent des communautés. Et puis, le climat change à nouveau, pendant 1000 ans. Il fait en moyenne beaucoup plus froid, par conséquent, la nourriture se raréfie. Les parents doivent souvent envoyer leurs enfants au lit le ventre vide. Par chance, les humains sont devenus plus intelligents. Ils découvrent que certaines graines, lorsqu'ils les éparpillent sur le sol, poussent pour former une nouvelle plante. Certains mènent des expériences avec des semences et d'autres cultures. Ils apprennent quelle terre est plus propice et comment soigner les plantes pour leur assurer une meilleure croissance. Ils deviennent donc moins dépendants de ce qui se présente spontanément à eux dans la nature. Ils apprennent aussi à conserver leur récolte de façon à garder à manger pour les périodes où rien ne pousse. Ce changement climatique est ainsi à l'origine de la découverte de l'agriculture. En apprenant à cultiver la terre, Homo sapiens peut produire davantage de nourriture. Ces circonstances permettent à certains de se lancer dans de nouvelles activités comme l'invention de l'écriture, la construction des maisons ou le calcul arithmétique.
Oui.
Alors, qui a raison ? Toi ou bien ceux qui pensent que l'être humain va s'adapter ?
Mais je suis pas trop d'accord avec ce qu'elle a dit. Là. pas trop, parce que c'est trop simple comme ça. Oui, d'accord, il s'est adapté par rapport à la venue de l'Holocène, mais on parle de la limite de l'ère glaciale. C'est-à-dire que... Et c'est pas adapté au climat dur. C'est un climat doux. Je parle pas comme les températures d'aujourd'hui, mais je parle des températures à l'époque.
En tout cas, moi, je sais que tu es à l'aise là-dedans parce que ça fait partie de ta formation.
Oui, c'est ça. L'homme n'a pas. Il a observé ce que les plantes faisaient, mm-hmm. ou les oiseaux faisaient avec les plantes. Mm-hmm. Il a découvert ce qui est l'agriculture. C'est-à-dire qu'il n'était pas comme ça, il regardait ah, comment je vais faire pour avoir mon propre pâturage. Non! C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il a découvert que si, par exemple, une pomme ou une pêche qui tombe à terre, il y a le noyau, après un certain temps, ça a poussé. L'homme préhistorique dans la base, il a toujours une vidange, ce qu'on appelle les escargotières. Il jette ces trucs là-bas. Et à force de jeter des trucs comme légumes, fruits, ça a poussé. Et il observe ça, il a découvert que si il y a certaines races de types de plantes, s'il fait ça, ils vont pousser à nouveau. Et petit à petit, elle a commencé à aiguiser sa tare là. Après l'invention de l'écriture ou les moyens de communication, parce qu'elle avait besoin de ça. Mais elle parle de la période de transition entre le nomade sédentaire. Parce que si on dit agriculture, on dit un homo sapiens sédentaire. S'il fait son propre pâturage, il ne peut plus bouger. Il a des poules, il a découvert que les poules peuvent être domestiquées. Les chevaux domestiqués, les chiens, tout ce qui est animaux qu'il peut domestiquer, tout ça le rattache et là commence le sentiment d'appartenance à une terre chez la race humaine. Tout est relié en fait. Il n'y a pas que, bah oui, il a découvert comment planter des tomates. Ok. Mais ça donne quoi ? Ça donne qu'il n'est plus nomade.
Bon, mais maintenant, ceux qui vont perdre leur terre parce que la mer a englouti leur terre, comment ils vont faire?
Ils vont s'adapter. Là, on revient à l'adaptation, mais on va revenir à l'instinct qui est en nous, c'est que on a perdu un terre, on va acquérir une autre. Mm-hmm. Mais pas avec la force des armes. Là, on revient à la migration climatique, ou la migration depuis la haute antiquité qui existe, c'est par rapport au climat. S'il devient plus aride au sud, on va changer vers le nord, bon, et vice-versa.
On ouvre la conversation, mais on la referme rapidement. Mm. Est-ce que ces gens-là doivent être accueillis avec bienveillance, ou alors on doit leur mettre des conditions pour qu'ils ne perturbent pas l'environnement de ceux qui les accueillent?
Excuse-moi, perturbe pas l'environnement de ceux qui l'accueillent. C'est quel environnement? Bah, ils sont semblables, non? C'est le même environnement. C'est peut-être une différente culture, mais c'est le même environnement. On va brasser ça et on repart.
Que ce qu'on observe depuis un certain temps, les immigrants ne sont pas toujours les bienvenus.
Parce que c'est ça le sentiment d'appartenance à une terre que je disais tout à l'heure. Mmh. Il y a des personnes, ce sentiment s'est très développé jusqu'à avoir peur de l'autre qui s'en vient. Mais à la base, eux-mêmes sont venus d'autre part.
C'est ça.
Mais ont oublié. Enfin, mais dans leur subconscient interne,
oui,
il y a toujours ce sentiment-là, il est juste caché. S'il bouge, il va prendre de l'ampleur en eux-mêmes. Mmh. Parce que les vagues migratoires, on a dit la migration, c'est un concept nouveau. Mmh. De l'ère qu'on vit. Mais à la base, auparavant, on dit pas ça. Les populations qui étaient nomades durant la proto-histoire ou avant les empires, quand on est dans l'histoire romain, phénicien et autre, avant ça, les peuples étaient nomades. Ils bougeaient entre les pays où ils trouvaient le pâturage, où ils trouvaient bien vivre, ils restaient.
C'est ça.
C'était comme ça. Le nouveau monde était découvert comme ça. Excuse-moi, mais c'est l'histoire, c'est la science. Le nouveau monde était découvert par des gens nomades qui ont créé des comptoirs de commerce, chacun comment il peut appeler ça, et se sont après installés comme sédentaires. Ce qu'on fait maintenant, l'exploration de l'univers, c'est quoi?
C'est la même chose.
C'est la même chose. Mais c'est plus beau. C'est tout. On le donne de beaux noms. Oh, l'aérospatial, oh, la Lune, Mars. Mais c'est la même chose.
D'ailleurs, par rapport à ça, beaucoup de gens alertent sur le fait que nous n'avons plus. Nous épuisons les ressources de la Terre bien longtemps avant les fins d'année. Hmm. Et que nous avons besoin peut-être d'un peu plus que la Terre pour entretenir la communauté humaine qui habite ici.
Mais il n'y a pas de banque sur Mars, malheureusement, pour combler nos fins de mois, bon, ou fins d'année.
Alors, c'est ça, tu m'as devancé, c'était la question que j'allais poser, c'est que est-ce que nous avons une chance de nous en sortir ? En allant chercher ailleurs ce qu'il faut sur la Terre, ou bien nous devons nous ajuster et vivre avec selon nos moyens. Pourtant, on enseigne aux enfants à vivre selon leurs moyens, mais c'est pas ce que l'humanité fait.
C'est ça. Je prends ça et je pose la question. Il y a deux théories.
Oui.
Si on est croyant dans les religions, soit non. Si on est croyant dans la religion, non. Il y a toujours un jour du jugement où il n'y a plus de...
d'échappatoire.
Tout à fait. Ça, c'est une chose. Il y a tout ce qui est scientifique. On met la religion à côté et on parle du Big Ben. Comme le Big Ben s'est passé sur Terre, il peut se passer sur autre planète. Où on peut trouver quelque chose d'autre. Là où il y a des milliards d'étoiles. Mais on n'a pas les moyens d'y arriver maintenant. Peut-être un six jours. Ces deux fils, ça revient à nous autres, comme individus, de croire à la version A ou la version B, la version de la religion ou la version de la science. Et depuis longtemps, l'homme joue entre les deux. tous les mythes, c'est les mythes par exemple par rapport à l'éclipse solaire par exemple, depuis longtemps, même avant les pharaons, l'homme a peur de ça. Il rapporte ça avec les mythes ou rapporte ça avec la religion. Et là, il vient le discours scientifique qui essaie d'expliquer ça aussi. C'est un petit peu comme ça, la race humaine. Elle essaie de jongler avec tout ça, avec ses peurs, avec ses craintes, voilà. Avec le futur, avec le...
Alors, disons donc qu'il y a l'observation, l'étude du phénomène, pour une certaine compréhension, et maintenant, pour une action appropriée.
Oui.
Bon. Mais la discussion n'est jamais achevée, malheureusement.
Elle ne sera jamais achevée. Du tout, elle ne sera jamais achevée.
Alors, comment agir quand une discussion, une conversation n'est pas achevée?
On essaie de sauvegarder
l'essentiel,
les acquis qu'on a, et bâtir sur ces acquis-là. On n'a pas d'autre choix, on ne peut pas trancher nous autres maintenant sur ça. On ne peut pas, on essaie de minimiser les dégâts, c'est tout. Mais c'est vraiment le travail. Écoute, on est le 6 avril 2024.
C'est ça.
Maintenant, à 9h27, l'humanité n'est pas encore au point d'avoir de solution par rapport à ça.
Faisons une bifurcation musicale suivie d'une pause publicitaire. On vous revient tout juste après.
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Funk Connection, les mercredis de 19h30 à 21h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche tous les samedis de 8h à 10h sur les ondes de Chiz 94.3 avec Augustin Becci.
Nous avons mis pied là où le meilleur de la culture locale alternative se trouve. Musique, littérature, danse, art visuel et cinéma. Il s'en passe des choses ici.
Vous venez d'atterrir à Chérie J'arrive sur zone de Chiz 94.3 à Québec. Pour être à jour sur tout ce qui se passe dans la culture émergente, locale et d'ailleurs, c'est Chérie J'arrive qu'il faut écouter. Du mardi au jeudi de 16h à 17h30.
Je voudrais bien rester, mais seulement si on trouve un loyer abordable.
Convoquons une nouvelle fois notre amie Mathilda Masters. qui dit qu'un changement climatique est à l'origine de l'effondrement des grandes civilisations. Le climat change en permanence, que cela nous plaise ou non. Les périodes glaciaires alternent avec des phases plus chaudes. Il y a environ 12 000 ans, a pris fin la dernière grande glaciation. Le climat est resté plutôt stable depuis, hormis un petit âge glaciaire entre 1400 et 1850. Le climat n'évolue pas partout de la même façon. Parfois, celui d'une région donnée peut devenir plus sec. Par exemple, si elle est très peuplée, la survie de ses habitants est menacée, car il n'est plus possible de récolter assez à manger pour tout le monde. Les Mayas, cela coulait douce en Amérique du Sud, il y a 3000 ans. Ils cultivaient toutes sortes de plantes et la population s'accroissait. De grandes villes firent leur apparition. Mais vers 900, le vent a tourné. La sécheresse a frappé la région où ils habitaient. Les mauvaises récoltes se sont succédées. Il y a eu des pénuries d'eau et de nourriture. Les Mayas ont essayé de conquérir des terres supplémentaires auprès d'autres peuples, mais sans succès. Leur civilisation s'est effondrée à cause du changement climatique. Ce phénomène s'est reproduit avec d'autres grandes civilisations. Quand les humains épuisent leurs ressources alimentaires et hydriques, les conséquences sont en général graves. Nous le constatons aussi de nos jours partout dans le monde. 20 à 30% de l'ensemble des espèces animales sont menacées d'extinction. Si le niveau de la mer augmente de manière trop importante, des cités entières se retrouvent sous l'eau. Quelques degrés supplémentaires peuvent provoquer d'énormes sécheresses avec à la clé des pénuries alimentaires dans certaines régions. Est-ce que, enfin là je pose la question à notre co-animateur, est-ce que les conflits qu'on observe dans le monde peuvent s'expliquer aussi à cause des changements climatiques?
Oui, entre autres. Entre autres, pas que ça. Ça me fait rappeler un conflit qui... On va pas échapper, on va le voir et on le voit et on l'a vu. C'est par rapport à l'eau. Par rapport à l'eau buvable. Heureusement, à Québec, l'eau est abondante. Mais il y a d'autres bords au monde qui est vraiment... Les gens vivent sous le seuil de la pauvreté en eau. Et ça pose des questions par rapport au conflit. Mmh. Il y a des pays que... Bah, prenons l'exemple phare du Nil, le fleuve du Nil qui est en Égypte et qui trouve un bassin versant en Éthiopie.
C'est ça.
Il est le plus lent fleuve au monde. Et comme dit à l'époque antique, l'Égypte est là grâce au Nil. Et là, l'Éthiopie essaye de faire des grands barrages par rapport au Nil. Ce que va diminuer l'apport en eau au Soudan, du Sud, du Nord et en Égypte. Là, il y a un problème pour l'Égypte parce qu'il y avait un traité par rapport à ça. Et il y avait une guerre par rapport à cette eau. Avec le réchauffement climatique, avec tout ce qui est évaporation de l'eau, est-ce qu'il y aura, ma question, est-ce qu'il y aurait une autre guerre par rapport à cette eau? Est-ce que cette zone-là, le Soudan du Sud et l'Éthiopie, ça n'a jamais été des états tranquilles, stables? Il y a toujours des problèmes d'ordre militaire. À Addis Abeba, dernières années, il y avait une révolution, un essai de coup d'état par rapport à ça. Ça va éclater un séjour, cette poudrière. Et c'est à cause du réchauffement climatique, parce que chaque pays essaie d'avoir son quota d'eau qui se fait de plus en plus rare. Il y avait un quelqu'un que tu connais. Il y avait un monsieur qui gouvernait un pays, je donne une énigme, qui a créé un fleuve artificiel.
Notre ami Muammar.
Tout à fait. Muammar Kadhafi, c'était le dirigeant de l'Égypte, de la Libye, et qui a créé... Bah, la Libye, 95% de son territoire est un Sahara et un désert. Il a creusé des puits profonds pour chercher la nappe qui est très profonde et acheminer cette eau du désert, au fond du désert, aux grandes villes libyennes. Il a appelé ça, c'est un projet colossal, c'est un très grand projet.
Mais Muammar a toujours dit, n'a jamais caché, qu'il s'inspire de l'action de l'État hébreu.
Oui, oui.
Qui est lui-même allé chercher de l'eau douce pour alimenter sa population.
Oui.
Bon. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est
Et même avec ça, là, le traité de paix entre la Jordanie et Israël, sa base était l'eau potable. Parce que la Jordanie, le fleuve de Jordanie, Israël a bâti un barrage par rapport à ça, et elle demande toujours, elle achète de l'eau potable pour sa population d'Israël. C'est-à-dire que tous les conflits qu'on aura prochainement, c'est l'eau potable. Le conflit qui est maintenant sol européen entre la Russie et l'Ukraine a déréglé tous les systèmes d'approvisionnement dans le monde. Parce que l'Ukraine et la partie Russie qui est à la frontière de l'Ukraine, c'était le grenier du monde. C'était le grenier du blé, de l'orge et tout ça à travers le monde. Et on voit que les pays sous-développés ont en train d'être des pays développés. Et ils ont galéré pour avoir tout ce qui est doré alimentaire par rapport aux chaînes d'approvisionnement à travers le monde. Mon cher, c'est ça, on est arrivé à ce constat que les prochaines guerres au monde seront des guerres pour avoir de l'eau.
Mais nous avons un problème à ce niveau-là aussi, parce que d'un côté, nous allons être submergés. Et d'un autre côté, nous avons besoin d'eau douce.
Oui, mais on va être submergé d'eau salée, pas d'eau douce. Mais on a le phénomène d'évaporation qui est énorme d'eau douce. Le problème, dans les pays qui avaient un climat doux, ils sont maintenant avec un climat aride, tous les barrages d'eau sont en train de s'évaporer.
Mais est-ce qu'on s'entend que l'humanité actuelle, qui se proclame sapiens sapiens, est capable, avec son intelligence, de dessaler suffisamment d'eau pour ses besoins?
Mais ça coûte cher. Elle peut, mais ça coûte cher. Un mètre cube, ça coûte presque $1 et quelques. Calcul.
Moi, c'est...
Si on a besoin de 20 millions de mètres cubes, c'est 20 millions de dollars. Au plus. US dollars, c'est très cher.
Bon.
Et en plus, comment on va désaliniser? C'est avec de l'énergie fossile. On aura de l'émission de CO2. C'est comme si un chien essaie d'attraper sa queue, ce sera un cercle vicieux qu'on tourne, tourne.
Est-ce que nous n'avons pas d'autres solutions? Est-ce qu'on ne peut pas mettre les chercheurs à contribution?
Tout à fait, c'est leur travail, c'est leur devoir. Déjà, de retrouver les habitudes des anciens, c'est-à-dire d'avoir un puits chez lui. Je parle pas d'ici, je parle où il y a vraiment des problèmes de climat dans le monde qui commencent à se sentir là. Bassin méditerranéen, Europe occidentale, Asie, Moyen-Orient, tout ça. Auparavant, dans les traditions des maisons, il y avait des puits.
Oui, il y avait.
Il y avait des citernes d'eau de pluie.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est des... Si chaque maison ou chaque agglomération a sa propre auto-déficience d'eau, on n'aura pas besoin de grands barrages.
On va voir à qui envoyer notre facture, parce que Son de Cloche vient de proposer à
l'humanité. Tout à fait, des solutions.
Écoutons, avant de te revenir à toi, Rika Zaraï, Tant que tu m'aimeras. Notre émission tire à sa fin et ce que nous allons dire maintenant tend vers certaines conclusions. Dans le monde entier se tiennent. Dans le monde entier se tiennent des conférences sur le climat qui rassemblent des gouvernements, scientifiques, chefs d'entreprise et représentants de toutes sortes d'organisations. On y fixe des objectifs climatiques sur la base des données scientifiques recueillies par le GIEC. On y définit également les dates auxquelles ces objectifs devront être atteints. En 1997, un accord majeur, le protocole de Kyoto, a été conclu dans la ville japonaise du même nom. Les pays industriels, hormis les États-Unis, il faut le souligner, ont convenu de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Celles-ci devraient avoir diminué de 5% en moyenne en 2012 par rapport au niveau de 1990 et de 18% entre 2013 et 2020 par rapport à 1990. Depuis 2013, une conférence sur le climat a lieu tous les ans. En 2015, un nouvel accord international crucial pour le climat a été signé à Paris par 195 pays. Il stipule que nous devons tenter de limiter le réchauffement climatique à 1,5%, 1,5 Celsius par rapport à la température moyenne entre 1850 et 1900. L'augmentation de température doit absolument rester sous les 2 degrés Celsius si nous voulons que notre planète demeure habitable pour les humains. Tous les pays doivent élaborer un plan climat et expliquer comment ils vont réduire leur rejet de gaz à effet de serre. Les nations riches doivent en outre aider les pays en voie de développement à diminuer leurs émissions. Ces traités constituent une première étape. Reste à voir dans quelle mesure ils seront mis en œuvre. J'aime bien le petit dessin sur une conférence sur le climat que je vois ici. Il y a quelqu'un qui pense que ce sont des esprits brillants. Il y en a qui pensent que c'est une bonne idée. Il y en a qui pensent que c'est trop cool ce plan. Il y en a qui pensent que on est amis pour la vie. Il y en a qui pensent peace and love. Il y en a qui pensent super équipe. Mais il y a aussi quelqu'un qui pense que tous ceux qui se sont exprimés avant sont une bande de bobos. Alors, que pense notre consultant maison de tout ceci et qu'est-ce qu'il propose à l'humanité?
Qu'est-ce que je propose à l'humanité? Qu'est-ce que je pense dessus? Bah, écoute, c'est vraiment des sujets alarmants que l'humanité doit faire face maintenant. C'est des défis de l'existence, en fait. Soit on est ou on n'est pas là. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre choix. Il faut que tous les pays, je dis bien tous les pays, pas que les pays qui sont en voie de développement, tous les pays qui sont les géants de l'économie mondiale doivent essayer, doivent respecter les traités de la sauvegarde de la nature, de la sauvegarde de la race humaine, carrément, et doivent respecter les normes de l'émission des gaz à effet de serre. On ne dit pas qu'on devra arrêter tout, parce qu'on peut, on peut plus. La Terre en a marre de nous, elle a fait 2 années d'arrêt. Mm-hmm. La nature, elle est tannée de l'être humain. Elle a fait 2 années de Covid, où tout est black. Il n'y a rien. Et elle a respiré un petit peu. J'espère que ça ne va pas se reproduire, parce qu'il peut. On a tendance à oublier que la nature peut se dessiner sur nous. Et on ne sera pas le premier sur l'échelle, on sera les derniers. Parce qu'on a perdu toutes les facultés de survie. On est tellement dans le confort. J'espère qu'un séjour, on va retourner un petit peu vers nos origines, vers nos traditions de survie. Comme je disais tout à l'heure, les puits, les citernes d'eau, tout ce qui est agriculture en symbiose avec la nature, sans trop de trucs génétiquement modifiés, là, sans trop de pesticides, sans abuser de la terre, on reste en vie, en symbiose avec la nature. Si on fait ça, on sera longtemps ici.
Écoutons Richard Bonnat avant le mot de la fin.
Thank you. matin ba won ba won di wana tete te wonya mi se muna pan nyolango nyende longo ba matin ba won ne tonu mama bongo patu dende nika malinga na tenda pe to malati mulema dibola ne tena e yandondo Sele lo conyolo indo dute neni o ma bolle ya no muna mule mai sele nge ya po bena ma pan inale wende fo wasanje o bene na bato
Merci à notre ami Richard Bonin. Disons, d'après Dan Rosegard, il est extrêmement difficile de convaincre des responsables politiques ou des chefs d'entreprise qu'une idée est bonne la plupart du temps. Est bonne, qu'une idée est bonne. La plupart du temps, ils rétorquent « oui, mais » et cherchent toutes sortes d'arguments pour démontrer qu'elle ne peut pas être mise en œuvre. Voilà pourquoi il a conçu une chaise spéciale. Si quelqu'un s'assoit dessus et dit « oui, mais », il reçoit une petite décharge électrique dans le postérieur. De quoi nous convaincre de réfléchir à deux fois avant de dire « oui, mais ». Laissons le mot de la fin à notre ami Ahmed.
Mon cher, le mot de la fin, c'est toujours difficile. Écoute, à samedi prochain, bonne semaine, ça sera plus simple. On va essayer de sauvegarder un petit peu la nature. Chacun fait de son coin ce qu'il peut. Et la semaine prochaine, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai fait de ma part pour essayer de sauvegarder un petit peu la nature. J'espère que le temps sera clément parce que j'ai sorti mon vélo et comme ça, je peux sauvegarder un petit peu la nature.
La nature. Ok. Alors, bon samedi et à samedi prochain.
Faire des tonnes je pense pas, c'est mon mandat, je suis là pour dire colis, envoyez donc par là, je me donne carte blanche, je tombe pas mes gants blancs, je peux se noyer à quel point la vie n'a pas de bon sens. partout, ça ouais, à soir, on vire fou que tombent les tabous. Mais je frappe des nœuds pis des cordes sensibles. Faut pas être peureux, ah, c'est pas long, ça c'est. On peut plus jeter son dévolu, ça a l'air, c'est pas poli. J'ai le motus cousu, mais je m'essaye une sortie. J'ai les mains liées, je me les délie. Je te le crache, je te le crie, je te le dégueulis. Aussi cru qu'une salade, mange-moi le pad. Mange-moi le pad. Mange-moi le pad. Savoir comme un judo passer par quatre chemins. Ah, pis si ça passe pas, ben ça me chira des mains. Assez de contraintes de main, mais écoute, tu portes trop plein. Faut pas garder ça dedans, les coucher les enfants. Mais si je succombe à la censure, que je prostitue ma prose et mon écriture, fait que le diable me déshérite. Qui me reprenne, qui m'a donné à guide et qu'à la guérite, ce chien tête qui est cerbère me réserve un sort arbitraire. Celui de brûler à perpète aux oubliettes de l'enfer. Si on ne peut plus rien dire, si on ne peut plus dire de marde, personne ne peut m'empêcher d'en chier. J'ôterai mon poing serré pour lâcher un gaz. T'as ma langue un asti de fois avant de parler, mon moins des millions, des milliers de fois avant de tuer les télé, télé. Hey, je tire le tigre, ça s'appelle le tigre, pendant que j'ai comme muselle, je suis comme une bolle qui refoule.